Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, le richissime homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet. Il y a déjà une demi-douzaine de candidats déclarés, mais le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, n'a pas encore annoncé ses intentions. Plus de détails sur la candidature d'Aliou Boubacar Diallo avec Bagassi Koura.
J'ai terminé dimanche la rencontre de mes partisans dans la ville de Nioro. Je suis candidat à la présidentielle, a déclaré l'homme d'affaires, propriétaire d'une mine d'or au Mali, après avoir soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, a quitté la majorité pour rejoindre l'opposition en 2016. Plusieurs autres candidats se sont déjà déclarés dans la course à la présidence. Khalifa Sanogo, maire de Sikasso, le général Moussa Sinko Koulibaly, ancien ministre, Modibo Kone, un ancien de la Banque Ouest-Africaine de Développement, et Amadou Ntouré, ex-chef de l'Union internationale des télécommunications. Mais le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a toujours pas dit s'il va se représenter. Samedi dernier à Bamako, plusieurs associations de la majorité ont apporté leur soutien à sa candidature.
En Guinée, ras-le-bol d'une partie de la population face aux manifestations à répétition et aux grèves. Certains Guinéens ne partagent pas l'enthousiasme des militants de l'opposition qui avaient appelé hier à une nouvelle journée ville morte pour contester les résultats des élections locales sur fond de grève des enseignants. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour Aïssata Souma, une habitante du quartier de Bonfi, la ville morte ne devrait pas concerner les ménagères qui ne peuvent pas aller au marché, car toutes les routes sont barrées. En banlieue, des jeunes assis devant des commerces fermés ont dénoncé les interminables palabres entre le pouvoir et l'opposition. Par ailleurs, des milliers de personnes ont manifesté à Kaloum pour réclamer la fin du conflit dans l'enseignement. Devant le palais présidentiel, ils ont réclamé la réouverture des écoles fermées depuis le 12 février. Une branche dissidente du syndicat libre des enseignants et chercheurs a déclenché une grève pour réclamer des augmentations de salaire. Déjà le 7 mars à Conakry, plusieurs milliers de femmes habillées en blanc avaient dénoncé les violences policières meurtrières lors de manifestations politiques. Le même jour, le président Alpha Condé a promis de mener une vaste consultation pour procéder à un grand remaniement ministériel qui se fait toujours attendre.
Au Tchad, l'appel de l'opposition pour une journée ville morte lundi n'a pas rencontré le succès escompté malgré le fait que les fonctionnaires sont en grève depuis plus de 6 semaines. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Les rues, les banques et les principaux marchés de N'Djamena ont connu la même affluence que d'habitude. Le secteur public continue, lui, d'être paralysé. Les écoles sont fermées et les hôpitaux assurent le service minimum. Nous n'allons pas suivre les politiciens, nous aussi, nous avons des enfants à nourrir, a confié le commerçant Mahamat Issa au marché central de la capitale. Gokam Djassibai, le secrétaire général d'une branche régionale de l'UNDR, le principal parti d'opposition tchadien, a été interpellé à Koumra à la suite de la récente mise à sac de locaux du parti au pouvoir. Les syndicalistes font l'objet de vexations par l'Agence nationale des renseignements qui les interroge et les relâche à la suite des manifestations, a dénoncé Salé Kebzabo, le chef de l'UNDR. Le Tchad est en proie à des tensions sociales et politiques. Elles sont montées d'un cran depuis janvier, après la mise en place de nouvelles mesures d'austérité, touchant principalement les fonctionnaires.
Au Bénin, le tribunal de Cotonou a condamné ce mardi 7 responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques du pays à 4 ans de prison ferme. Une peine dont la lourdeur se veut un symbole de la guerre aux faux médicaments, selon les observateurs. Ces grossistes répartiteurs, qui contrôlent à eux 7 la distribution des médicaments au Bénin, ont été condamnés notamment pour vente de médicaments falsifiés, exposition et vente de substances médicamenteuses falsifiées. Les prévenus devront également payer 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État béninois, soit environ 150 000 euros. C'est ce qu'a confirmé à l'AFP. Un avocat de la partie civile au terme de l'audience, une somme selon lui symbolique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est de retour aux États-Unis après avoir achevé sa première tournée africaine à Abuja au Nigeria. un jour avant la date annoncée pour des raisons d'emploi du temps chargées à Washington. Ce séjour en Afrique l'a conduit au Kenya, à Djibouti, en Éthiopie et au Tchad, pays partenaire du Nigeria dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Pour dresser un bilan, Morgan Guillier a joint N'Djamena Brian Newbert, un des porte-parole du département d'État américain.
Cette visite a donné une opportunité au secrétaire Tillerson d'écouter les stratégies, les concerns des gouvernements dans la région de nos partenaires. Le secrétaire a montré l'engagement des États-Unis en Afrique.
Quels ont été les temps forts de cette visite?
Bien sûr, le secrétaire Tillerson a discuté les défis dans la région, ce qui concerne nos partenaires, l'extrémisme violent. Mais il a pris l'opportunité à discuter d'autres éléments de notre coopération. Par exemple, ici, au Tchad, il a discuté avec son Excellence le Président comment attirer l'investissement américain pour faire avancer et diversifier l'économie tchadienne. Au Kenya, il a félicité les leaders politiques pour leur annonce récente où ils ont dit qu'ils allaient travailler pour la réconciliation, ce qui est très important pour la gouvernance.
Alors Rex Tillerson a dû écourter son séjour. Pourquoi?
Il est très bien occupé à Washington. Il a fait une semaine en Afrique, mais il a dû rentrer à Washington juste un peu tôt. Heureusement, il avait l'opportunité de rendre visite à tous les 5 pays qui a été prévu, mais il a eu quand même l'opportunité de discuter ses priorités avec les présidents et ses homologues dans chaque pays.
Vous êtes, vous l'avez dit, à N'Djamena. Vous avez donc suivi de près cette escale de Rex Tillerson au Tchad. Quels sont les points saillants de cette escale tchadienne?
Le Tchad est vraiment un très bon partenaire des États-Unis. Ils sont actuellement dans une région où il y a vraiment des défis dangereux. Nous sommes ici avec eux, ça c'est ce que le secrétaire Tillerson a dit au président Deby. C'est que nous restons engagés, nous sommes reconnaissants du rôle essentiel qui joue le Tchad dans la région en ce qui concerne la sécurité. Également, le secrétaire a exprimé nos intérêts en ce qui concerne la bonne gouvernance. Et puis, comme je disais, ils ont discuté quelques éléments de défis de faire avancer l'économie tchadienne.
Brian Newbert, un des porte-parole du département d'État américain. Actualité aux États-Unis toujours, la commission du renseignement de la Chambre des représentants dominée par la majorité républicaine au Congrès a annoncé hier n'avoir trouvé aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire Donald Trump et la Russie lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les membres républicains de la commission ont dit avoir terminé leur enquête sur les ingérences russes et ont publié leurs principales conclusions. Elles ont immédiatement été critiquées par le camp démocrate qui dénonce depuis des mois la conduite partisane de cette enquête parlementaire dans le but, selon eux, de protéger le président républicain. Le président Donald Trump s'est réjoui dans un tweet entièrement écrit en lettres majuscules que la commission du renseignement de la Chambre n'a, après une longue enquête approfondie de 14 mois, trouver aucune preuve de collusion ou de coordination entre la campagne Trump et la Russie pour influencer l'élection présidentielle 2016. Les élus réfutent notamment la conclusion des services de renseignement américains annoncée en janvier 2017 sur la préférence supposée du président russe Vladimir Poutine pour M. Trump face à la candidate démocrate Hillary Clinton. Les républicains prennent acte d'un nombre de cyberattaques russes contre les institutions politiques américaines en 2015 et 2016, en particulier par les réseaux sociaux, mais ils critiquent la réponse défaillante de l'administration du président démocrate Barack Obama avant l'élection et disent avoir enquêté sur la façon dont des sources russes avaient alimenté un dossier anti-Trump financé par le camp Clinton. Enfin, les élus soulignent des contacts problématiques entre de hauts responsables de la communauté du renseignement de l'ère Obama et des médias, selon le résumé mis en ligne par la commission.
Conflit en Afghanistan pour terminer, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis est à Kaboul depuis ce mardi matin pour une visite surprise 2 semaines après une offre de pourparlers de paix du président afghan Ashraf Ghani aux talibans. Le patron du Pentagone a affirmé à son arrivée à Kaboul que certains talibans sont intéressés aux négociations préconisées par le président afghan. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.